VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 14 décembre 2017. En direct de Washington, Idrissa Sedulia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
Attentat suicide ce matin à Mogadiscio, en Somalie.
Ouverture à Dakar du procès du maire de la capitale sénégalaise, accusé de détournement de fonds publics.
Au Cameroun, le parti d'opposition SDF dénonce, je cite, « la militarisation des régions anglophones du pays ».
De nouveaux soutiens financiers hier à Paris pour la force du G5 Sahel.
De nouvelles sanctions financières ciblées des États-Unis contre les rebelles ougandais de l'armée de résistance du Seigneur.
En Turquie, l'OCI a appelé hier le monde à reconnaître Jérusalem-Est comme capitale d'un État palestinien.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Un attentat suicide a été perpétré aujourd'hui à Mogadiscio dans une école de police, faisant apparemment plusieurs morts, a annoncé la police. Un homme portant une ceinture d'explosifs est entré dans le camp, déguisé en policier, et s'est fait exploser, a déclaré un officier de police, Mohamed Abdelay, laissant entendre qu'il y avait de nombreuses victimes, sans pouvoir fournir un bilan plus précis dans l'immédiat. Le camp attaqué est le site de la plus importante école de police de Somalie. Aucun groupe n'a encore revendiqué cet attentat, mais les Chebabs affiliés à Al-Qaïda prennent régulièrement pour cible les forces de police.
Ce matin s'ouvre à Dakar, au Sénégal, le procès du maire de la capitale, Khalifa Sall. Il comparaîtra devant le tribunal correctionnel pour répondre à des accusations d'association de malfaiteurs, de détournement de deniers publics et d'escroquerie portant sur 1,8 milliard de francs CFA. Khalifa Sall a été inculpé et incarcéré à la prison de Rebeus depuis le 7 mars 2017. De Dakar, notre correspondant Seydina Abagay fait le point.
Après plus de 9 mois d'instruction, le marathon politico-judiciaire autour de l'affaire dite de la caisse d'avance va connaître un tournant décisif avec l'ouverture ce matin à Dakar du procès du maire de la ville de Dakar et de ses co-accusés. Rappelons que les poursuites contre Khalifa Sall ont été enclenchées suite à un rapport de l'inspection générale d'État qui mettait en lumière l'existence d'une caisse d'avance qui aurait permis au maire de Dakar de recevoir 30 millions de francs CFA chaque mois, une somme qui cumulée aurait atteint 1,8 milliard de francs CFA sur une période de 5 ans. Le maire de Dakar a toujours nié avoir détourné des deniers publics. Malgré tout, les recours introduits par ses avocats pour obtenir l'annulation des poursuites ou la liberté provisoire de leurs clients ont toujours été rejetés. Même la caution rassemblée par ses proches n'aura pas permis à Khalifa Sall de recouvrer la liberté. Ce procès sonne donc comme la dernière chance du maire de la ville de Dakar pour prouver son innocence et ne pas voir son rêve présidentiel s'envoler. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
François Compaoré, frère de l'ex-président déchu du Burkina Faso, Blaise Compaoré, a indiqué mercredi à la justice française qu'il ne souhaitait pas être jugé au Burkina dans le cadre du procès sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo.
Au Cameroun, le principal parti d'opposition, le Social Democratic Front, a dénoncé hier ce qu'elle a appelé la militarisation des deux régions anglophones du pays. C'était au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Jules Stapp.
Au cours de la conférence de presse, Paul Ndji Toumazan, député SDF de la Mesam Sud dans le Nord-Ouest, a pris le contre-pied du gouvernement, affirmant que les zones anglophones, y compris son village, sont militarisées et non sécurisées. Jean Tomelou, secrétaire général du SDF, a pour sa part critiqué la mauvaise gestion de la crise dite anglophone par le régime de Paul Biya. Jean Tomelou.
Cette attitude hostile et arrogante des gouvernants a tout fait de généraliser la crise à l'ensemble des populations anglophone.
En novembre dernier, à défaut de parvenir à inscrire à l'Assemblée nationale et au Sénat l'examen de la crise anglophone, les parlementaires du SDF ont plus d'une fois interrompu les travaux dans les deux chambres. Jean Temoulou, secrétaire général du SDF.
Le chairman m'a demandé officiellement de dire que le parti est fier de vous. Vous avez respecté les instructions du parti.
Le SDF a par ailleurs réitéré la tenue d'un dialogue inclusif pour résorber la crise anglophone. Yaoundé, Emmanuel Junta. VOA Afrique.
Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont demandé à la Russie davantage d'informations sur une fourniture d'armes russes à l'armée centrafricaine, sans toutefois s'opposer à leur livraison. C'est ce qu'ont indiqué hier des diplomates. Moscou veut équiper 2 bataillons de l'armée centrafricaine en cours de formation, totalisant 1300 hommes. La Russie a aussi proposé d'entraîner l'armée centrafricaine à l'utilisation de ses armes, un projet qui doit encore recevoir un feu vert de l'ONU.
La force du G5 Sahel a reçu hier à Paris de nouveaux soutiens financiers. Yacouba Ouedraou.
La principale annonce de la réunion de Paris a été la décision de l'Arabie Saoudite de contribuer à hauteur de 100 millions d'euros à la force du G5 Sahel. Les Émirats Arabes Unis apporteront pour leur part 30 millions d'euros. Ces contributions s'ajoutent aux enveloppes déjà annoncées de 50 millions d'euros de l'Union européenne et 60 millions de dollars des États-Unis. Les besoins de cette force ont été évalués à 250 millions d'euros. Le président Emmanuel Macron a souligné que le G5 Sahel connaîtra une augmentation des effectifs, un renforcement des postes de commandement dès le premier semestre de 2018. La chancelière Angela Merkel a ajouté que son pays va apporter des équipements et des infrastructures. Cette réunion sera complétée par un sommet le 23 février à Bruxelles. Les groupes djihadistes dispersés après une occupation du nord malien ont retrouvé un nouveau souffle malgré une présence dans la région de 12 000 casques bleus de la MINUSMA et 4 000 soldats de la force française Barkhane.
Les États-Unis ont annoncé hier de nouvelles sanctions financières ciblées visant les rebelles ougandais de l'armée de résistance du Seigneur de Joseph Kony. Ces derniers sont accusés d'attiser le conflit en Centrafrique. Eric Manirakidza.
D'après le Trésor américain, ces mesures concernent deux hommes, Okot Lukwang et Moussa Hatari. Ils ne pourront plus faire d'échanges avec des citoyens américains et leurs éventuels avoirs aux États-Unis sont gelés. Le Trésor affirmait que Okot Lukwang était responsable du renseignement et de la logistique au sein de la LRA de Joseph Kony. Il aurait mené des trafics d'ivoire pour fournir le groupe en devises, armes et munitions. Moussa Hatari, commerçant de la région de Kafiaking, dans le sud du Darfour, est décrit comme un fournisseur de munitions, mines, armes et nourriture de la LRA. En 25 ans, la LRA s'est forgée une terrible réputation par des enlèvements d'enfants, des mutilations de civils à grande échelle et pour avoir semé la mort et la désolation dans la région. Barack Obama avait déployé une centaine de soldats américains dans la région pour aider la traque du rebelle ougandais Joseph Kony, qui est jusqu'ici resté insaisissable.
En Angola, le grand ménage engagé par le nouveau président, João Lourenço, contre des proches de son prédécesseur José Eduardo dos Santos, suscite des tensions au sommet. Il y a même eu une passe d'armes publique inédite dans les annales politiques du pays, John Lyndon.
L'ancien président José Eduardo dos Santos est sorti de sa réserve mardi. Toujours le chef du MPLA, il a rompu le silence devant la presse, déclarant que les changements sont nécessaires, mais ne devraient pas être aussi radicaux. Son successeur, João Lourenço, lui a apporté la réplique hier en promettant de continuer à lutter contre la corruption. Pendant sa campagne, il s'était engagé à relancer l'économie en crise, malgré la manne pétrolière et les richesses en diamants. La population angolaise est parmi les plus pauvres de la planète. Après 38 ans de règne sans partage, M. dos Santos avait mis l'économie en coupe réglée au profit d'une poignée de proches. M. Lourenço a congédié ces dernières semaines nombre de proches de l'ancien président de la tête des institutions et entreprises publiques. Isabel dos Santos, la fille de l'ex-président, considérée comme la femme la plus riche du continent, a été limogée le mois dernier de la direction de la Sonangol, la compagnie pétrolière nationale, en difficulté à cause de la baisse des cours du brut.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, on continue de commenter la victoire du démocrate Doug Jones dans l'élection sénatoriale de mardi dans l'Alabama. C'était face au candidat républicain Roy Moore, appuyé ouvertement par le président Donald Trump, qui a dit avoir évidemment voulu un autre résultat dans ce fief républicain. Pour les démocrates, toujours minoritaires au Congrès, c'est bon signe pour les législatives de 2018. Quant aux républicains, ils comptent rebondir et attribuent cette défaite surtout au défaut du candidat Roy Moore, accusé entre autres de comportements sexuels inappropriés avec des mineurs il y a plus de 40 ans.
En Turquie, des leaders musulmans ont appelé hier le monde à reconnaître Jérusalem-Est comme capitale d'un État palestinien en réponse à la décision américaine de considérer la ville sainte comme capitale d'Israël. C'était à l'issue d'un sommet extraordinaire à Istanbul de l'Organisation de la coopération islamique, sommet au cours duquel ils ont usé d'un langage ferme sans annoncer de mesures concrètes. Ils ont en outre estimé que la décision du président Donald Trump, annoncée le 6 décembre, nourrissait l'extrémisme et le terrorisme. L'OCI a aussi affirmé que Washington, en décidant cette mesure qui va à l'encontre des résolutions internationales, signe son retrait de son rôle de médiateur dans la quête d'un règlement de paix.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco. Eric Manirakiza.
La Banque Ouest-Africaine de Développement a approuvé un financement de plus de 58 milliards de francs CFA pour divers projets. D'abord, l'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de la localité de Kabala au Mali. Ensuite, la réhabilitation des infrastructures et modernisation des équipements du port de Bissau en Guinée-Bissau. En Côte d'Ivoire, c'est la réhabilitation et le renforcement des aires de mouvement de l'aéroport de San Pedro. Il y a aussi la campagne cotonnière 2017-2018 au Burkina Faso et le plan d'action prioritaire 2016-2019 de la Sénélec au Sénégal. Enfin, le soutien aux petites et moyennes entreprises au Mali à travers la Banque commerciale du Sahel. Au Burkina, Endeavour Mining a démarré sa nouvelle mine d'or. La production annuelle est estimée entre 6 et 8 tonnes. Les recettes publiques attendues s'élèvent à plus de 20 milliards de francs CFA avec la création de 700 emplois directs et 1000 emplois non permanents. Au total, le Burkina compte 12 mines industrielles. En 2015, la production est passée de 36 tonnes à 40 tonnes au 30 novembre 2017. En 2023, l'Afrique subsaharienne devrait atteindre le milliard d'abonnements de téléphonie mobile. Chaque 10% de pénétration supplémentaire du mobile génère entre 0,6% et 2,3% de croissance du produit intérieur brut. L'Afrique reste encore le continent le moins connecté de la planète.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Real Madrid en finale de la Coupe du Monde des clubs.
Oui, le Real Madrid, tenant du titre, a dû attendre les dernières minutes pour battre Al Jazeera à Abu Dhabi 2-1 lors de cette deuxième demi-finale. Que ce fut dur pour les madrilènes. La faute à Ali Kassaif, le gardien d'Al Jazeera. Dans un grand soir, hier, sur la pelouse du Zayed Sport City Stadium, les Émiratis avaient ouvert le score en toute fin de première mi-temps par Romarinho. Au retour des vestiaires, le meilleur joueur du monde, Cristiano Ronaldo, égalise à la 53e minute. Puis pendant une demi-heure, les madrilènes poussent pour arracher la victoire, mais se heurtent au portier Émirati. Les champions d'Espagne vont enfin trouver la faille en toute fin de match avec Gareth Bale qui donne la victoire à Madrid. Notons, Idrissa, que la vidéo a été utilisée dans ce match trois fois pour invalider trois buts pour des positions de hors-jeu ou des fautes. Madrid qui devra se montrer plus réaliste face aux Brésiliens de Grêmio. La grande finale, ce sera samedi.
En Angleterre, nouveau record pour Manchester City.
Solide leader de la Premier League, Manchester City a remporté hier soir son 15e match de suite en championnat. C'est un record. Victoire 4-0 à l'occasion de la 17e journée sur la pelouse de Swansea. Leicester est allé s'imposer à l'extérieur à Southampton, 4-1, tout comme Everton à Newcastle.
Le PSG rebondit.
Oh, une semaine après leur défaite en Ligue des Champions contre le Bayern Munich et 10 jours après leur défaite en championnat contre Strasbourg, les Parisiens sont allés en Alsace éliminer les Strasbourgeois en 8e de finale de la Coupe de la Ligue, 4-2.
En Italie, choc milanais en quart de finale.
Le Milan AC a battu le Hellas Vérone 3-0 lors des 8e de finale de la Coupe d'Italie. En quart, les Rossoneri seront opposés à l'Inter Milan, tombeur mardi de Pordenone. La Fiorentina s'est également qualifiée hier soir. Allez Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oklahoma City Thunder et Indiana Pacers 100-95, Los Angeles Clippers et Orlando Magic 106-95, Memphis Grizzlies et Washington Wizards 87-93, Denver Nuggets et Boston Celtics 118-124, Portland Trail Blazers et Miami Heat 102 à 95, Utah Jazz et Chicago Bulls 100-103, Milwaukee Bucks et New Orleans Pelicans 108-115, Toronto Raptors et Phoenix Suns 115 à 109, Charlotte Hornets et Houston Rockets 96-108.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la Cour militaire du Sud-Kivu a rendu hier son verdict dans le procès de 20 personnes accusé de meurtre et viol de 42 fillettes à Kavumu. Ces prévenus sont présentés comme membres d'un mouvement insurrectionnel dénommé Jeshi la Yesu, qui signifie en swahili « armée de Jésus ». 12 d'entre eux, dont le député provincial Frédéric Batumike, sont condamnés, et je cite, à la peine de servitude pénale à perpétuité. 6 autres ont été acquittés et 2 condamnés à un an de servitude pénale, mais libérés pour avoir déjà purgé leur peine en prison. Notre envoyé spécial à Kavumu, Ernest Mouhero, nous en dit plus.
La Cour a la majorité des voix de ses membres et par scrutin secret les condamne à la peine.
C'est dans un silence profond dans une salle pleine à craquer que l'assistance suit avec attention le prononcé du verdict dans ce procès qui a commencé avec des interruptions depuis le 10 novembre 2017 pour des faits qui remontent à partir de 2012. Le premier président de la Cour militaire du Sud-Kivu, le colonel Kilinse Lemouke, qui rend l'arrêt, déclare que le député Frédéric Batumike et ses 11 coaccusés condamnés sont reconnus coupables des crimes contre l'humanité par viol et par meurtre et des participations à un mouvement insurrectionnel. Le chef du collectif des avocats de la défense, maître Jean Bosco Makuza, compte faire appel pour ses clients condamnés.
Je vais d'abord me réjouir de l'acquittement des 6 prévenus et de la condamnation par circonstances atténuantes des 2 autres prévenus. Nous nous inclinons à la décision de la Cour tout en réservant notre droit de faire appel pour ceux-là qui ont été condamnés.
Maître Charles Chichoura, porte-parole du collectif des avocats des victimes, estime que la Cour vient de ramener le sourire aux parents des victimes des viols.
Mon sentiment, c'est le sentiment des parents des victimes. Avec cet arrêt, la Cour militaire vient quand même de faire un pas vers les personnes qui se croient intouchables. Et avoir le verdict, eh bien, je crois que c'est une satisfaction, d'autant plus que les parents des victimes ont attendu plus de 3 ans pour voir s'ouvrir au fait ce procès.
Pour l'hôpital des Pensées du docteur Denis Mukwege, qui a recueilli et soigné en son temps les petites filles abusées à des fins fétichistes par les adeptes du député Frédéric Batumike, la satisfaction est légitime car ces fillettes ont vécu l'enfer. Docteur Antoine Fundiko, médecin chef de staff de l'hôpital des Pensées.
Comme personnel soignant, c'est un sentiment de satisfaction parce que ce que nous avons vu, on ne l'a jamais vu ailleurs. Des destructions des organes génitaux des enfants. Quelle mère de famille peut accepter que sa petite fille de moins de 5 ans soit abusée de cette sorte-là. C'est une bonne chose que les auteurs de ces actes ignobles soient punis. Je pense que c'est un signal fort pour tous ceux qui s'adonnent à ces actes.
Certains habitants de Kavumu ne cachent pas leur satisfaction.
Par rapport au problème des viols et violences, surtout sur les enfants, le travail a été accompli. C'est une joie immense parce que la population attendait seulement les résultats d'aujourd'hui. Vraiment, nous en sommes fiers.
Vraiment, l'ambiance est à gogo. Vous êtes témoins. Parce qu'on a déniché les malfaiteurs, on vient de les condamner.
Les condamnés, les mêmes menottés, sont transportés en prison. En même temps, les acquittés se réjouissent avec leurs parents et amis. Signalons que le député Batumike était présenté comme le chef de la milice Jeshi la Yesu en Kiswahili armée de Jésus qui s'était attaqué à 2 reprises aux positions de l'armée congolaise. Cette milice a recouru au viol des fillettes de moins de 10 ans pour utiliser leur sang hyménal dans une potion supposée rendre les violeurs invincibles aux balles. De Kavumu au sud Kivu, Ernest Mouero, VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
En Côte d'Ivoire, les enseignants de l'université Félix Houphouët-Boigny sont en grève. Une grève illimitée pour exiger le paiement d'heures supplémentaires, soit plus de 800 millions de francs CFA. L'université est donc vide, comme a pu le constater hier notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Salle fermée, amphithéâtre désert, ce ne sont pas des congés de fin d'année, mais c'est tout comme à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ici, les activités académiques sont à l'arrêt depuis que la CENEC, la Coordination nationale des enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire, a lancé son mot d'ordre de grève. Johnson Kwasi Zamina, secrétaire général de la CENEC.
Nous constatons que les engagements n'ont pas été respectés. Quant au paiement des heures complémentaires, l'exercice 2015-2016, nous avons discuté et ça n'a pas eu d'issue. C'est pourquoi, fatigués d'attendre, les enseignants ont décidé que nous rentrions en grève.
Sur les 5 milliards de francs CFA que l'État devait aux enseignants au titre des heures supplémentaires, il ne reste à payer que 873 millions de francs CFA. Pour les enseignants, le temps n'est plus au dialogue. Des enseignants qui disent ne pas être tenus par la trêve sociale conclue en août dernier entre les centrales syndicales et le gouvernement.
Nous sommes dans un moule avec des caractéristiques différentes. Et dès lors que chaque élément de ce moule se sent en insécurité, il convient qu'il se défende pour qu'il rentre dans ses droits. Et comme il n'y a que ce genre de violence entre griffes que le gouvernement entend, voici pourquoi nous rentrons en grève.
Les plus impactés par cette grève, ce sont évidemment les étudiants.
On peut dire que la grève ne nous arrange pas, hein, franchement. Nous, par exemple, on a fini la majorité de nos concours. Il reste quelques parties dans lesquelles nous avons encore composé. Donc, si on pouvait essayer en tout cas de trouver une issue à cette grève, ça allait vraiment nous arranger.
Actuellement, la grève des enseignants, des professeurs nous pénalise, étant donné que, en principe, nous sommes censés terminer nos compos le jeudi. Mais avec la grève, voilà, on est obligé d'attendre jusqu'à ce qu'ils reprennent. Non, forcément, ça nous pénalise parce que là, on ne sait même plus quand est-ce qu'on va terminer.
À la présidence de l'université, on se veut rassurant. Tout sera réglé dans 48 heures, selon une source jointe par la DOA. En attendant la reprise des cours, des membres de la FESI, la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, procèdent à une démonstration de force sur le campus universitaire.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Mali, le grand marché de Bamako, le marché rose, a pris feu. Le bilan est d'un mort et d'importants dégâts matériels qui pourraient être de plusieurs centaines de millions de francs CFA. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues, mais les branchements électriques anarchiques posent problème, nous dit de Bamako notre correspondant Kassim Traoré.
Assis sur un tabouret devant ses trois magasins partis en fumée, Aboubakar Simpara a les regards fixés sur le ciel dans une profonde méditation. Sur une aile du marché rose, sous un hangar de fortune, les responsables du marché sont en concertation. Les victimes de l'incendie sont entre tristesse et consternation totale, parce que certains d'entre eux ont perdu les réalisations de leur vie. Cheikh Oumar Djabi, commerçant détaillant.
J'ai beaucoup de peine parce que je sais qu'il y a beaucoup de familles qui vont aujourd'hui mal dormir. Je sais qu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui vont peut-être pleurer parce que les enfants, les femmes, les familles qui normalement avaient tous leurs revenus tirés de ce marché aujourd'hui vont avoir beaucoup de peine à dormir. Donc aussi aujourd'hui je vais peut-être demander à l'État aussi dans ces moments difficiles d'assister cette population qui vient d'être sinistrée.
Tout autour des magasins, boutiques et kiosques calcinés, des jeunes tentent de récupérer certaines affaires qui ont échappé aux filles. Alors que vers les magasins des Simpara, les sapeurs-pompiers s'activent pour éteindre les restes du feu.
Je suis venu pour un achat aujourd'hui. J'ai trouvé que le marché a pris du feu comme ça. Bon, ça m'a beaucoup surpris quoi. Donc je vais leur donner du courage, je serrer toujours la ceinture. Le marché a pris du feu sans explication au niveau des autorités. J'avais voulu que les autorités mettent un comité en place pour le suivi de l'électricité.
Certaines personnes sont venues consoler moralement les commerçants, mais tout en dénonçant le comportement des autorités en charge de la gestion des marchés de Bamako. là, citoyen.
Ce qu'on est en train de voir là, c'est criminel. Depuis longtemps, on voit les commerçants qui font rentrer des ressources. Les commerçants font rentrer de l'argent, plus de 880 milliards dans la caisse. On doit les aider. Mais depuis qu'il y a eu un ministre ici, qu'il y a eu le premier ou le président de la République, non. Ce pays-là, vraiment, c'est pas la peine.
Le directeur des marchés du district de Bamako était sur place. Il est dépassé en voyant les dégâts causés par l'incendie. Issa Balou.
Bon, selon l'explication du commissaire, il y avait un premier foyer et tout le feu a été propagé par les fils du chaud de l'énergie, les fils conducteurs de l'énergie qui a propagé le feu. Mais à travers son ministère de la Tombe, on est en train de chercher des sites de recasement. Donc cette recherche est avancée.
Le marché rose de Bamako vient de connaître son troisième incendie. Après 93 et 2014, l'incendie du 11 décembre 2017 est le plus grave. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
En Guinée, l'autorité de régulation des postes et télécommunications a fait fermer 47 stations de radio et télévision. Il leur est reproché le non-paiement des frais de licence pour certaines, le non-renouvellement pour d'autres. À cela s'ajoutent des arriérés d'environ 600 000 dollars accumulés depuis 2009 au titre des redevances annuelles dues par les radios et télévisions. Yacouba Ouédraogo a joint Sanou Kerfala Sissé, président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée.
En ce qui concerne, par exemple, le non-renouvellement des licences, la responsabilité, si elle est partagée, incombe beaucoup plus à l'autorité des postes et télécommunications qui porte souvent de petits problèmes lorsque les promoteurs des radios viennent pour renouveler leurs licences.
Quel genre de problème vous rencontrez?
Je vous donne un exemple précis. Lorsque j'ai constaté que la licence de Sabari FM arrivait à échéance, j'ai écrit au directeur général de l'autorité de régulation des postes et télécommunications pour lui signifier mon intention de renouveler ma licence d'exploitation pour toute réponse. Monsieur le directeur m'intime l'ordre de payer l'arriéré au titre de l'exercice 2009. Tant que je ne payais pas, il n'allait jamais me délivrer une nouvelle licence. Tout en disant qu'il fallait que je ferme et je paye d'abord les frais de renouvellement de licence, encore qui coûtait même le prix d'une licence. Donc c'est une nouvelle donne puisque c'est toute chose qui ne figurait pas du tout dans les de charge. Monsieur le Président de la République à l'époque a pris une décision.
Quand vous dites Président de la République, à qui vous faites allusion?
Je parle du Président Dadis. À l'époque, il a été décidé que les radios payent désormais 5 millions de francs guinéens au titre de la location des fréquences qui sont allouées aux différentes radios. Depuis 2010, nous avons bel et bien payé les 5 millions. Ils nous ont rétorqué que ce fut une décision verbale.
Pourquoi vous n'avez pas exigé en son temps une note écrite?
Le temps de prendre cette décision et l'attentat que Dadis avait fait l'objet à l'époque, c'était très court. Cette rencontre s'est déroulée entre le mois d'octobre et le mois de novembre et le 3 décembre, le président d'Addis a été victime d'un attentat. Quand on reçoit une lettre mercredi pour dire vendredi, je vais venir vous fermer, c'est qu'il y a un problème. Donc, nous avons vu une volonté manifeste du directeur général de l'autorité des postes et télécommunications dans le coude avec la presse. Nous sommes clairs là-dessus. Nous ne donnerons l'occasion à personne pour bâillonner cette presse en Guinée.
Est-ce que des démarches sont entreprises pour que ces stations radio et télévision fermées-là rouvrent?
Certaines radios qui ont des relations sont régulièrement acquittées. Nous, par exemple, nous avons demandé à certains de nos fournisseurs de nous avancer non seulement 2018 et 2017 à cette ardoise. Ce qu'on a essayé de faire hier, notre radio a été autorisée à émettre.
Est-ce que vous sentez que tout cela est politique?
Si la décision, elle est politique, et si les radios aussi avaient fait un peu d'effort, la situation que nous vivons aujourd'hui allait être derrière nous. Mais c'est que ce gouvernement oublie. Nous employons aujourd'hui plus de 2500 personnes. Donc, s'ils se mettent à fermer les radios, vous avez 2500 bandits dans la rue.
C'était de Conakry, Sanou Kerfala Sissé, président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. L'État hébreu s'en réjouit, mais le reste de la planète s'inquiète. Dans quel contexte s'inscrit cette décision du président Donald Trump? Quelles en sont les conséquences? Que signifie-t-elle pour le processus de paix au Proche-Orient et le conflit israélo-palestinien? Et pourquoi le statut de Jérusalem est-il à ce point délicat? vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.